Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot sur un sujet qui fait l'actualité, la compétitivité de la Maison France. Je reçois pour ce faire deux éminents économistes du Cercle Turgot, François Meunier, bonjour François.
Bonjour.
Et Pierre Sabatier qui préside aux destinées du cabinet PrimeView.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Alors, la compétitivité, je le disais à l'instant, est un thème en plein dans l'actualité, notamment avec la parution ou le psychodrame autour de la parution du rapport Gallois. Une compétitivité ô combien douloureuse pour notre politique industrielle et les équilibres de nos échanges extérieurs. Et en passe de prendre autant de place dans les passions que le dossier des 35 heures il y a quelques années, avec des postures quelquefois dogmatiques des deux côtés de l'hémicycle. En fait, l'histoire ne fait que commencer. Alors, le paroxysme, je viens de le dire, a été atteint par les propositions supposées du rapport Gallois, commissaire général à l'investissement, récemment investi d'une mission de réflexion présentée par avance comme incontestable, en tant que grand patron de ADS, la SNCF avant, et porteur des idées de gauche. Celui-ci, compagnon de route de Jean-Pierre Chevènement, dont il fut ministre de la Recherche et de la Défense, a dû, à la demande des plus hautes autorités de l'État, différer à plusieurs reprises la communication de ses conclusions au point de report en report d'incarner une nouvelle arlésienne. Le chef de l'État lui-même a fait connaître sa déception et ses réserves sur un rapport dont les conclusions n'engagent que son auteur, tandis que les ministres de concert dénonçaient par avance des erreurs stratégiques que pourrait représenter la mise en œuvre d'un choc de compétitivité pour la croissance et le pouvoir d'achat, avec une récession assurée, bien plus qu'avec une hausse des prélèvements obligatoires. Alors, c'est sur ce dilemme que nous allons discuter. Que proposer en fait, enfin que semble vouloir proposer le rapport Louis Gallois? 30 milliards de baisse des charges sur les entreprises, 20 patronales, 10 salariales, pour les salaires allant jusqu'à 3,5 SMIC, c'est-à-dire à un niveau supérieur à ce que avait proposé le précédent gouvernement, et financé par une hausse mixte de CSG, TVA et une réduction des dépenses publiques. Gallois lui-même a reconnu qu'il se heurtait à un lobbying fort des économistes keynésiens. Et on attend donc maintenant la parution effective de ce rapport. Alors je me tourne vers nos invités, tout d'abord vers François Meunier pour qu'il nous rappelle en un mot ce qu'est ce concept de compétitivité et puis peut-être qu'il nous dise s'il y a un problème de la compétitivité en France.
Compétitivité pour une entreprise, c'est facile à définir, c'est sa capacité à vendre un produit moins cher et donc gagner en part de marché ou à prix donné à vendre à une qualité supérieure. Pour un pays, par assimilation, on pourrait dire que c'est sa capacité à vendre moins cher ou de meilleure qualité. Et donc, par conséquent, ça se juge par les effets, gain de part de marché, balance des paiements, etc. De fait, s'il y a un sujet compétitivité, c'est toujours relativement à quelqu'un d'autre. Et là, le match se joue clairement entre France et Allemagne, qui sont dans cette même zone monétaire qu'est l'euro, et donc sans possibilité de jouer ce qui avait été le cas il y a bien bien longtemps maintenant sur l'instrument monétaire. Donc alors, le débat est là.
Tout à fait, le débat est là, et il se pose donc sur deux axes de cette compétitivité. La compétitivité, qu'on résume en coût, et la compétitivité hors coût, enfin prix
absolument,
ou hors
qualité,
prix.
Qualité, on va dire.
Qualité. Alors, Pierre, un mot sur ce concept.
Alors, la première des choses, ça a été très justement dit par François Meunier, à savoir la compétitivité, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Donc, lorsqu'on veut aborder ce problème, il ne faut pas faire, entre guillemets, du nombrilisme ou de l'égocentrisme, il faut s'interroger, la première des interrogations à se poser, c'est qui sont nos concurrents? Puisque lorsqu'on parle de compétitivité, c'est qu'il y a un marché à se partager. Donc aujourd'hui, nos concurrents sont allemands, bien sûr, même si les Allemands nous ont taillé des croupières depuis maintenant une bonne dizaine d'années dans beaucoup, beaucoup de marchés, mais globalement sont aussi italiens. On va dire que nos concurrents sont européens. Et d'ailleurs, sont à mon sens plus aujourd'hui italiens qu'allemands. Ça me permet déjà d'évoquer une chose. Lorsqu'on parle de compétitivité, on ne parle pas de nos concurrents chinois. Et j'espère que dans la tête de tout le monde, c'est assez clair. Il y a de tels écarts aujourd'hui en termes de coûts, en termes de coûts de production entre les zones émergentes, même si on a de l'inflation salariale, il y a une hausse structurelle qui commence à arriver. Il y a de tels écarts que c'est pas en gagnant 2 à 3% de compétitivité ou de coûts salariaux qu'on va devenir compétitif vis-à-vis des pays émergents. Donc nos concurrents sont d'abord européens. Et se pose du coup la question, de comment faire évoluer une compétitivité qui, historiquement, s'était toujours réglée à coup de dévaluation monétaire. Je rappelle l'épisode très amusant de 93, à savoir quand la Banque de France décide d'arrimer le franc au Deutschmark, qui avait pourtant ses problématiques propres, à savoir avec la réunification allemande. Quand nos concurrents de l'époque étaient notamment dans l'agroalimentaire, qui est un sujet que je connais bien, de par ma formation d'ingénieur agronome initial, quand nos concurrents italiens et espagnols dévaluaient de 20 à 30% la lire et la pesetas, bingo! L'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Explosion des taux de faillite en France dès l'année 1993, et c'était un psychodrame pour justement les exportateurs, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc il faut faire très attention. La question de la concurrence et qui sont nos concurrents, c'est pour évoquer en fait la problématique de base de la compétitivité.
Alors justement, la COFACE, la compagnie bien connue d'assurance crédit, a publié un rapport sur l'évolution des faillites en France et en Allemagne, avec un graphique qui est assez irritant, puisqu'il montre que, alors que dans les années 94, le taux des faillites était élevé en France et régressé jusque dans les années 2003, ce qui était la situation absolument inverse de l'Allemagne, cette courbe s'est absolument inversée, puisqu'à partir des années 2003-2004, la courbe française des faillites a augmenté, tandis que celle de l'Allemagne baissait. Donc c'est d'ailleurs, François Meunier, une illustration des différences de politique économique, s'il y en a.
Oui, alors j'étais directeur général adjoint de COFACE jusqu'à une date récente.
Un sujet que vous connaissez bien.
De fait, on lit dans ce graphique que tu exprimes, on lit bien 20 ans de politique économique des deux côtés du Rhin. Pierre rappelait utilement le fait qu'on a tenu en 93 sur la ligne du franc fort. Et donc on a refusé une énième dévaluation, ça a été fait dans la douleur, de toute façon c'était la conséquence de choix qui avaient été pris dans la décennie 80. La France a payé pour ça, mais ça a gagné. Ayons bien à l'esprit que la politique du Francfort a été in fine un succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a été un peu aidé par les Allemands qui sont rentrés dans tous les problèmes, le pathos de la réunification de leur pays. Et donc ça a beaucoup aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu ce qui s'est passé en Italie ou en Espagne, à un degré moindre, c'est qu'une fois dans l'euro, toute cette discipline de la marche vers l'euro, c'est-à-dire on s'accroche à une monnaie forte, on reconnaît la logique du rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a une puissance économiquement dominante en Europe qui est l'Allemagne, et on fait avec, eh bien à cause de l'euro, je dirais, et principalement à cause de l'inconséquence des politiques, eh bien on a laissé aller, tout simplement laissé aller. Et on lit dans la décennie 2000 l'inverse des gains engrangé pendant la décennie 90.
Oui, tout à fait. Donc, une inversion totale.
Alors, oui, donc, à la petite différence près, à mon sens, où il faut bien revenir sur quand même ce qui s'est passé depuis la création de la zone monétaire unifiée. Le concept, c'est jusque-là, on avait quand même l'outil monétaire pour regagner ou perdre, mais en par voie de conséquence, en compétitivité. À partir du moment où on fige les parités de change, il est bien entendu logique que si une des puissances parmi cette zone monétaire unifiée joue sur le levier, enfin non, applique une stratégie non coopérative de dévaluation par les salaires, ce qu'ont fait les Allemands depuis 15 ans, à savoir lorsque un acteur parmi tous joue et engendre, je dirais, une dévaluation par les salaires, ce qui s'est produit, mais qu'est-ce qui se passe immédiatement? Elle vous emportez toute la mise si personne d'autre ne réagit au regard de cette politique économique qui est donc agressive vis-à-vis de ses voisins. Donc simplement, bien entendu, on a raison de dire qu'on a un problème de compétitivité, qu'on a trop de laisser-faire, qu'on a surtout peut-être un appareil public qui est trop développé chez nous et qui veut trop s'immiscer dans la vie des affaires, c'est très clair. Maintenant, lorsqu'on joue dans une zone commerciale ouverte, je mets en garde contre la multiplication des stratégies non coopératives. Tout à l'heure, on parlait de compétitivité. Jusqu'à l'année dernière, je disais souvent que la France, finalement, était à risque, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a que les Allemands qui gagnaient dans cette histoire. Les Italiens perdaient, hein. Je rappelle, l'emploi industriel en Italie est passé de 24% à 19% en 10 ans. Chez nous, on est passé de 16 à 12. Les Espagnols sont passés de 18 à 10. Mais globalement, tout le monde a perdu, hormis l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un seul acteur qui fait ça, bon, il emporte la mise et les autres souffrent. Mais depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on a constaté? Les Espagnols s'y mettent, les Italiens s'y mettent, les Allemands continuent d'appliquer en fait une stratégie non coopérative de dévaluation par les salaires. Donc, conclusion, il n'y a plus que la France qui ne fait rien. Donc dans ces cas-là, on est en situation d'urgence. On l'était pas forcément auparavant, mais pourquoi? Parce que dans une zone monétaire unifiée, donc dans laquelle on devrait observer de la coopération, on a finalement une démultiplication de politiques économiques non coopératives, agressives. Donc puisque, en l'occurrence, on revient finalement avec nos vieux réflexes qui sont que nos concurrents initiaux sont des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Donc simplement, attention, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, si tout le monde use du même levier, du coût du travail notamment, à la fin, ça fait une seule chose, c'est que la taille du gâteau à se partager finit par diminuer.
Oui, alors là, on arrive dans le vif du sujet, sur les axes. Donc, il y a un problème de compétitivité qui se mesure par notamment le déficit du commerce extérieur, 70 milliards. Ça commence à coûter cher. C'est pas le seul instrument de mesure, mais enfin, c'en est un qui est assez significatif. L'autre instrument de mesure, c'est qu'en fait, on est mauvais au plan industriel, aussi bien pour ceux qui produisent de la qualité et cher, que pour ceux qui produisent de la faible qualité et pas cher. Donc, on est mauvais sur les deux créneaux, ce qui est absolument dramatique. Alors, puisqu'on est d'accord pour dire qu'il y a un problème de compétitivité, que le rapport Gallois ouvre les voies, quelle est votre position par rapport à ces deux voies? Donc, est-ce que c'est les deux, mon capitaine? Vers quoi va votre préférence?
Le rapport Gallois, contrairement à ce qu'on entend, n'est pas enterré nullement. Simplement, il ouvre deux débats. Un débat gigantesque et puis un débat secondaire. Le débat gigantesque, c'est oui, on peut faire une mesure consistant à baisser le coût du travail via les cotisations sociales, mais en même temps, ça veut dire transférer la charge vers les ménages, et donc c'est un choc de pouvoir d'achat. Est-ce bien raisonnable maintenant? Premier débat, et honnêtement, c'est pas simple à trancher. D'où le débat, est-ce que c'est les keynésiens, etc. Mmh. Deuxième débat, secondaire, mais pas complètement, c'est de dire, si on baisse les cotisations sociales, comment le fait-on? Uniformément, comme si on transférait par exemple les prestations familiales, vieille rengaine, complètement du côté des impôts sur la charge nationale, ou bien le fait-on sélectivement? Et là, le débat un peu secondaire, mais qui provoque, disons, des conflits difficiles à régler, honnêtement, qui est-ce qu'on cible les très bas salaires, dont on sait qu'il y a un levier en emploi plus fort, ou un peu plus haut, puisque clairement l'industrie, voyons l'industrie automobile, est plus concernée par les salaires déjà au-dessus du SMIC que par les très très bas salaires. Donc du coup, est-ce qu'on aide plutôt les industries de service ou le cœur manufacturier français? Donc voilà les deux débats posés dont il faut discuter. Chacun a sa position. C'est vrai, je pense, sur le premier débat, si on se concentre là-dessus, et j'en finis là, on peut être keynésien et tout autant penser qu'il faut faire une opération de transfert de cotisations sociales vers les autres types d'impôts, quitte bien sûr à faire à court terme un choc sur le pouvoir d'achat des ménages.
Je rebondis sur ce que dit François Meunier, à savoir que le choc a des inconvénients, mais est-ce qu'on a bien le choix de ne pas faire ce choc alors que tous les autres ont démarré, hein? Comme le disait Pierre Sabatier, c'est toujours en valeur relative et par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis deuxièmement, lorsqu'on, et là je vous relance sur ce point, Pierre Sabatier, si on parle de trajectoire, une trajectoire, on voit bien ce que ça veut dire, du temps. On ne peut pas décréter que demain les entreprises, parce qu'il y a eu un rapport gallois ou autre, notre rapport, vont innover trois fois plus que les entreprises allemandes, italiennes ou tous les autres concurrents. Donc ça demande du temps. Donc est-ce que le principe de la trajectoire présentée comme une alternative au choc est bien réaliste?
Premier point. Aujourd'hui, a-t-on le choix? Je suis d'accord, donc il faut faire un choc de compétitivité, mais c'est plus facile de le faire quand on est le premier à le faire. Et la réalité, c'est qu'au cours des 10 dernières années, les Allemands l'ont fait. Ils ont fait ce choc de compétitivité, ce sacrifice. Mais on oublie de dire qu'en même temps, lorsqu'on a parlé justement de cette déflation salariale qui était organisée, hein, qui s'est pas faite de manière, je dirais, sauvage, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Ben, c'est le moment où Chirac et Schröder à l'époque disaient « les 3% de déficit public, on s'en fout ». Alors nous, on a dit « on s'en fout », mais on n'en a rien fait. Les Allemands ont été intelligents. Ils ont su qu'en créant un choc de compétitivité, ils précarisaient finalement la demande et les ménages, et ils ont compensé par du déficit public. Maintenant, le problème, c'est qu'on veut faire la même chose, mais qu'on n'a plus les moyens de faire du déficit public. Et donc là, il y a une véritable problématique de comment. Comment peut-on faire pour regagner et pour créer ce choc de compétitivité lorsqu'on a quand même des agents privés qui sont dans une situation relativement précaire, que ce soit en termes d'endettement ou de capacité à se projeter dans l'avenir? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, l'évolution des chiffres d'affaires en ce moment. On est dans la saison des publications des résultats de nos entreprises françaises, européennes, américaines. Qu'est-ce qu'on constate? Tout à l'heure, je vous parlais de la taille du gâteau à se partager. On n'a plus de surprises négatives sur les bénéfices, on a des surprises négatives sur les chiffres d'affaires, c'est-à-dire sur la consommation des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises investissent moins, les ménages investissent moins sous forme de consommation. Donc tout ça pousse à avoir des chiffres d'affaires qui baissent et donc à avoir des gâteaux à se partager qui baissent. Donc la réalité, c'est le comment, c'est compliqué. Et ça passera par la coordination, de la coopération à l'échelle européenne. On peut essayer de le faire tout seul, mais si tout le monde se met à tirer dans les pattes de tout le monde en même temps, ça va être compliqué, surtout au moment où on peut plus faire du déficit public.
Oui, mais Pierre, est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux, ça? C'est l'Europe va pas résoudre les problèmes que la France a aujourd'hui devant elle. Est-ce qu'en définitive, le sujet, ce n'est pas, est-ce que on n'est pas devant un problème de trop de consommation face à une insuffisance de production? Est-ce que ça se résume pas de façon binaire à ça? Donc si véritablement on est, je rappelle, tu parlais de Schröder tout à l'heure, alors je ne retrouve plus la citation dans le livre de notre amie Sophie Péder, Le déni français, mais Schröder dit une chose extrêmement simple, c'est que c'est très difficile de prendre les mesures auxquelles tu faisais allusion. Mmh. Et ça fait très mal d'un point de vue politique. On peut y perdre beaucoup de choses, le pouvoir, y compris les élections. Sauf que on est impopulaire pendant 3 ans, 4 ans. Mais si on prend l'exemple de la Suède, qu'on prend l'exemple de l'Allemagne, qu'on prend tout un tas d'autres exemples, eh bien, vous avez un retour. Et là, ça se fait, on va dire, de façon très personnelle. Ça peut pas se faire avec une coopération. Alors, la coopération est probablement, mais là, je m'engage personnellement dans le débat, ce que je devrais jamais faire. Mais la coopération est certainement intéressante dans une logique de moyen long terme. C'est d'ailleurs même la logique européenne. Mais à court terme, je vais prendre une expression un petit peu triviale, c'est un peu chacun pour sa peau. Enfin,
il y a une façon de poser le débat, mais peut-être une incidente d'abord. Ouais, ouais. Vous savez, on tape un peu à raison sur une sorte de quacophilie du gouvernement actuel. Mais
ça, je ne l'ai pas dit. Mais
mais il faut se souvenir historiquement que Schröder, quand il a démarré, ça a été épouvantable.
Ah, tout à fait.
Et les gens disaient, y compris dans son propre camp, il y avait cette anecdote, Schröder, il met le clignotant à droite, et puis ensuite il met le clignotant à gauche, mais la voiture elle reste au parking. Et ça, ça l'a suivi pendant pendant 2-3 ans avant qu'il fasse le Standort Deutschland qui a si bien réussi, et que Merkel remette une cuillère à soupe là-dessus en faisant la TVA sociale. Ils ont fait la TVA sociale d'une façon extraordinairement agressive par rapport aux partenaires européens. Je pense qu'une façon d'éclairer le débat, et j'irai dans ton sens, Jean-Louis, de rendre inéluctable ce transfert, c'est de raisonner au fond. S'il n'y avait pas les taux de l'euro, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Même en France, on dévaluerait. Le Deutschmark serait recréé. Voilà.
On n'aurait pas besoin. Le Deutschmark montrait immédiatement tout seul.
Le Deutschmark montrait tout seul.
On regarde les échanges, c'est la théorie économique.
Qu'est-ce que ferait, quel serait l'effet de ce mouvement de parité? Ce serait une ponction, c'est ce que fait une dévaluation, une ponction sur le secteur domestique, les ménages principalement, vers le secteur exportateur. Ce qu'on est en train d'imaginer...
C'est la même chose.
C'est la même chose, ça s'appelle une dévaluation interne au lieu d'être une dévaluation externe. Et alors, quand on dit ça aux gens, mais au fond, Mitterrand, il en a fait 3 dévaluations avant de s'arrimer fortement. Et jamais personne à l'époque n'avait songé que la dévaluation voulait dire baisse du pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi avoir ces scrupules de première communiante quand on dit on reste dans l'euro, puisqu'on est arrimé à l'euro et c'est un choix politique phare, en même temps, on restaure les problèmes de la compétitivité relative Allemagne-France, sans trop compter sur les Allemands qui ont leur propre agenda politique. Et au fond, la coopération, il faut être 2 pour coopérer. Donc, puisqu'on est la France, voyons les mesures. La seule mesure majeure d'ordre fiscal qui soit à disposition, en politique conjoncturelle, il y a des mesures structurelles à faire, qui peut-être sont plus difficiles à cause des problèmes budgétaires que nous avons. Et la première mesure de politique conjoncturelle, c'est ce transfert d'une partie de la valeur ajoutée française du secteur domestique vers le secteur exportateur. La TVA sociale est, excusez-moi, une solution à faire ça. On invente plutôt de la CSG qui a des moins bonnes propriétés à cet effet. Mais au fond, c'est ça l'objectif. Et Gallois le dit extrêmement clairement.
Tout à fait. Donc,
absolument. Là-dessus, on partage à peu près les mêmes opinions. Mais j'aimerais quand même, lorsqu'on évoque la compétitivité, bien évoquer qu'on a surtout, à mon sens, plus qu'un problème de coût chez nous, un problème d'organisation du tissu entrepreneurial. Et c'est là où on est réellement en retard par rapport à nos voisins.
Ça, c'est très juste.
Faire se rassembler l'innovation, la recherche, l'entreprise, ça, c'est réellement, et que ça débouche sur des emplois qui seront des emplois d'avenir parce que ce sont des emplois différenciés qui nous permettront d'être plus concurrentiels que demain. On refera pas de l'acier. On en refera de manière extrêmement en très faible quantité sur nos territoires. Mais la réalité, c'est que demain, pour regagner en compétitivité, il faudra s'organiser. Dans ce sens, les pôles de compétitivité étaient une bonne chose. Attention, ce sont des mesures qui, pour l'instant, vont dans la bonne direction. Bien entendu, elles portent leurs fruits sur longue période. Donc, il faut continuer, à mon sens, bien sûr, se focaliser sur le problème du prix parce qu'il y a urgence, vu que tous nos voisins sont en train de le faire. Il faut qu'on bouge et on peut pas se permettre de ne pas bouger. Donc, bien sûr, je déplore les stratégies non coopératives qui se multiplient en Europe. Mais derrière, n'oublions pas que les réformes structurelles, elles passeront par la réorganisation de notre tissu entrepreneurial, faire se parler des gens qui cherchent, des gens qui trouvent et des gens qui produisent et vendent. Et je pense que la réalité, c'est qu'on redeviendra compétitif à ce prix.
Tout à fait. Ce sont des, je te rejoins parfaitement, c'est des mesures structurelles. C'est-à-dire que c'est sur le moyen long terme, c'est la fameuse trajectoire, etc. Mais à court terme, dans l'immédiat, on est devant ce mur des 56% de dépenses publiques par rapport au PIB. C'est bien là. C'est-à-dire que ça, c'est absolument incontournable. On voit bien que la plupart des moteurs économiques sont en train de s'éteindre, que le commerce extérieur ne s'améliore pas. On est en état d'urgence. Je voudrais, pour terminer, vous faire, comme ça, ça nous permettra d'élargir un peu l'actualité, vous faire rebondir sur un extrait du livre de Sophie Péder qui dit la chose suivante. Les Français passent tellement de temps à débattre de la redistribution de la richesse et de l'imposition des plus riches qu'il néglige la création de ses richesses. La solution n'est pas de se demander constamment si le voisin a plus que soi, mais de concentrer les efforts en vue d'assurer la liberté d'entreprendre et l'égalité des chances, et de veiller à ce que chacun, sans considérer ses origines, puisse réussir et bien gagner sa vie. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qui transparaît du rapport gallois? Est-ce qu'on n'est pas en train de regarder à nouveau notre nombril avant de passer à l'action, alors que l'action nous attend demain?
Oui, il vaut mieux produire des richesses qu'on pourra distribuer, pas inverser la charrue et les bœufs. Mais en même temps, tous les pays ont cette problématique. Regardez tout le débat sur Obamacare aux États-Unis, il porte sur les questions de répartition. Je pense qu'il peut pas y avoir une économie de marché performante, dont certains des effets, c'est d'accroître la discrimination entre les catégories sociales. Imaginons qu'on privatise totalement le logement social, ou la santé, ou les transports, etc. On voit bien ce que... On ne peut pas avoir une économie de marché puissante sans avoir des mécanismes de redistribution qui rassemblent le corps social, que ce soit par la progressivité de l'impôt ou que ce soit directement par l'aide budgétaire. Donc il ne faudrait pas que, fort de cela, dans les débats sur la nécessaire restriction de la dépense publique, au fond, ce qui est d'ailleurs le débat avec les républicains aux États-Unis, le fiscal cliff, c'est ça. C'est de dire, comme les autres dépenses, on peut pas les réduire, ça va être les dépenses sociales qu'on va couper. Attention à ça. Il me semble qu'un des points clés que nous avons dans le secteur abrité, qui est, disons, le secteur des services publics, un problème d'organisation du travail, de rationalisation, de productivité, de faire que les choses marchent et que ça consomme moins de ressources nationales.
Et aussi de choix, parce qu'en fait, c'est le problème, c'est ça. C'est-à-dire, quel choix fait-on? Les dépenses publiques, en soi, c'est ça. Mais par contre, on voit bien que n'importe quel chef d'entreprise du secteur privé est capable, à un moment donné, de réduire ses dépenses, s'il est en période de crise, de 10, 15, 20%. Tout le monde l'a fait.
En sachant que c'est même pas nécessaire à ces niveaux-là, puisque la réalité, c'est que pour redevenir, je dirais, stable en termes de finances publiques, c'est 6% d'économie qu'il faudrait faire sur les dépenses publiques. C'est pas grand-chose. Effectivement, tout chef d'entreprise serait en mesure de le faire. Donc, simplement, j'aimerais qu'on fasse la différence. La question n'est pas 54 ou 56% de PIB de dépenses. Puisque en face de ça, il faut regarder ce qu'on met en face, qu'on a mutualisé comme dépenses. Comment on les dépense et si elles sont dépensées de manière optimale, c'est clairement pas le cas. Pour rebondir et pour terminer sur ce que vous évoquez juste à l'instant, c'est une question philosophique. Malheureusement, je crois que le bonheur est toujours relatif. Et globalement, le remettre en question, c'est remettre en question finalement la nature humaine. Nous, nous sentons en forme et d'ailleurs, et nous sommes heureux lorsqu'on sait qu'on progresse individuellement et on sait qu'on progresse par rapport à la situation de son voisin. C'est comme ça, c'est peut-être très européen, mais je crois pas, je crois que c'est surtout très humain. Donc il faut faire avec. Donc nous nous comparerons toujours et nous serons plus heureux si nous sommes en meilleure forme que le voisin, même si chacun d'entre nous reste...
Alors on conclut en disant, François Meunier, il faut un choc.
Oui.
Pierre Sabatier.
Bien sûr qu'il faut un choc, mais d'abord un choc en termes organisationnels.
Très bien. Donc des chocs, mais de nature légèrement différente. En tout cas, merci messieurs pour ces réflexions très puissantes et personnelles sur ce grand sujet d'actualité dont on n'a pas fini de parler, je pense. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'au lieu d'en parler, on passe à l'action.
On agit.
À très bientôt. Merci.
Merci.